Vous écoutez Vie d'aventure par Denis Brognard.
Mon invité aujourd'hui, Yann Arthus-Bertrand, l'homme aux mille vies. Un aventurier voyageur, photographe, cinéaste, avec un credo, laisser une trace de ses découvertes et de ses rencontres. Un militant aussi pour une vie plus responsable, un explorateur qui prend de la hauteur pour nous faire admirer la planète. Yann Arthus-Bertrand, autodidacte, grand témoin de notre monde qui souffre. Bonjour Yann Arthus-Bertrand.
Salut Denis, ça va? Est-ce que tu vas bien?
Très bien, et toi?
Écoute, ça va, j'ai eu un petit Covid, mais ça s'est bien fini, je suis en pleine forme, voilà.
Alors, j'ai envie de parler de toi comme de poupée russe, parce que toutes tes vies s'imbriquent les unes dans les autres et donnent un sens à ton existence. Et c'est vrai qu'on a du mal parfois un peu à te suivre, ça tombe bien, on va y arriver dans ce podcast Vie d'aventure. Alors, tu nous le disais, tu as eu le coronavirus. D'abord, comment vas-tu et quelles sont tes idées pour que le monde évolue après le confinement et après ce virus qui aura quand même impacté la planète entière?
Je suis plutôt inquiet, je dois reconnaître. Je suis pas un futurologue parce que l'économie, on vit tous de la croissance et cette croissance, paye les hôpitaux, paye l'éducation et la croissance va prendre un gros coup, c'est évident. Donc, je ne sais pas ce qui va se passer. J'espère que ça se passera dans la bienveillance et non pas dans l'agressivité, que tous les politiques joueront le jeu et qu'on sera ensemble devant ce moment difficile et compliqué. Voilà.
Yann, tu as dit notre façon de vivre va détruire notre vie. Est-ce que ce coronavirus est une conséquence de cette vie qui nous échappe?
Bien évidemment, et j'en veux beaucoup aux Chinois d'ailleurs, qui ont quand même signé les traités depuis une vingtaine d'années sur l'interdiction de vente des animaux sauvages. Et sincèrement, je vais le dire avec des mots crus, et je suis désolé, mais les Chinois, ils font chier depuis une trentaine d'années. Si les rhinocéros sont en train de disparaître, c'est à cause des Chinois. Le braconnage des éléphants de l'ivoire, en grande partie à cause des Chinois. Les requins avec les ailerons de requins. Et le pangolin, qui est un animal mais hyper protégé, interdiction de commercialiser les animaux sauvages. La Chine a signé, il y a eu des congrès, même en Chine, là-dessus. Je comprends qu'en Afrique, on peut pas arrêter les braconniers, parce qu'il y a une histoire de survie, avec énormément de corruption. Mais en Chine, c'était pas très difficile d'empêcher le commerce des animaux sauvages. Ils font beaucoup de choses que personne d'autre ne fait. Et on a l'impression qu'on retrouve dans les casseroles des Chinois ou dans les médicaments des Chinois toute la liste des animaux en voie de disparition. Et là, il faut arrêter, quoi. Aujourd'hui, notre façon de vivre met une pression sur la vie sauvage, sur la vie sur Terre absolument insupportable. L'homme est en train de consommer la planète, la vie sur Terre.
C'est pour ça, Yann, que tu évoques la fin de l'humanité.
Non, mais moi, je veux pas croire en la fin de l'humanité. Je l'évoque, c'est les scientifiques qui l'évoquent. T'as quand même un appel de 15 000 scientifiques dans le monde, de 15 000 scientifiques, c'est pas un petit truc, hein, qui parlent de la sixième extinction sur Terre. C'est fou, quoi. Ce qui arrive en ce moment, c'est absolument inimaginable. Et c'est très curieux, c'est que ce que tous les écolos rêvaient, c'est-à-dire d'un monde avec moins d'avions, moins de voitures, circuits courts, tu vois, une réflexion humaniste sur les gens qui nous entourent, eh bien, c'est arrivé, là, avec le confinement. Donc, si on veut, on peut le faire. Je dis pas qu'il faut le faire si brutalement, mais en tout cas, on peut vivre. On le voit bien, d'ailleurs. On a tous vécu avec l'essentiel, et ça nous dérangeait pas tant que ça, de vivre avec l'essentiel. Voilà. Je pense pas avoir peur de le dire, et je pense que cette période du Covid va nous faire réfléchir maintenant. Qu'est-ce qui va se passer? J'en sais rien. Voilà, j'en sais rien. Mais j'espère, en tout cas, quand on sera dans un monde plus durable, plus humaniste, en s'occupant plus des autres. Et je pense que cette période de Covid nous a bien montré, quand tous les soirs à la télé, on était en train de compter les morts, de la fragilité de notre vie et de celle des gens qu'on aime. En fin de compte, c'est ça le bien le plus précieux qu'on a. C'est notre vie. Et on a peut-être un peu oublié ça. Voilà.
Yann, moi je voudrais qu'on parle de ta vie. En revenant au commencement, tu es issu d'une famille bourgeoise, 6 enfants. Et est-ce que tu es d'accord avec moi si je dis que tu étais à l'époque un peu un sale gosse à l'école, que tu sortais des sentiers battus?
Ouais, je viens d'une famille formidable, tu vois, un peu une caricature des familles catho-bourgeoises, avec des parents très aimants, mais très coincés. C'est des parents qui avaient connu la guerre. Ma mère avait perdu un enfant avant moi, elle avait peur de tout. Et je détestais l'école. J'ai fait 14 écoles, je me bagarrais. J'étais vraiment un gosse épouvantable. D'ailleurs, c'est drôle parce que quand ma mère était à la fin de sa vie, j'étais la voir et puis mon père me dit un jour, tu sais, Ta mère, elle pleurait tous les soirs dans son lit pendant un an. Et moi, pendant un an, j'ai même pas appelé mes parents. J'imagine bien que si mes enfants partaient sans m'appeler, justement, je serais malheureux. Donc, j'ai été voir ma mère en m'excusant avec les larmes aux yeux. Et ma mère, elle a éclaté de rire. Elle m'a dit, mais tu sais, Yann, on pardonne tout à ses enfants. Et ça m'a fait du bien qu'elle me le dise. J'étais vraiment un gosse qui refusait l'autorité. Je suis parti de chez moi quand j'avais 17 ans. À cette époque-là, on était majeur à 21 ans. Les flics m'ont ramené à la maison. Puis les flics ont dit, ah, ben, laissez-le partir. Il veut partir. On peut rien faire. Voilà.
Et à ce moment-là, Yann, eh bien, tu ne parles pas d'aventure. Tu rêves d'une grande vie d'acteur de cinéma et tu vas traîner tes guêtres dans les studios de cinéma à Boulogne.
Tu vois, je rêvais d'un monde différent. J'étais un monde très fermé, t'imagines, un monde bourgeois. Moi, j'étais un fou de Salut les copains. Tu vois, le rock'n'roll, c'est l'opposé de ce qu'aimaient mes parents. Je voulais avoir les cheveux longs, tu vois, toutes les conneries. Et donc, je pars de chez moi, je traîne dans la rue avec des gosses comme moi, un peu paumés, prêts à faire n'importe quoi. Et donc, on dormait dans les cinémas. La nuit, sur les Champs-Élysées, on traînait jusqu'à minuit. Et quand les gens sortaient des salles de cinéma, on rentrait par la porte de sortie. Et on dormait entre les sièges des cinémas. Et on était réveillé par la femme de ménage qui passait l'aspirateur le matin.
Et tu as fait du cinéma?
Je voulais vivre dans ce milieu-là, quoi. Donc, j'y vais au studio de Boulogne. Je demande si je reste à regarder. C'est une époque aussi plus facile qu'aujourd'hui, hein. On rentre dans le studio, on voyait qu'il y avait un tournage. On dit, qu'est-ce que vous faites? Puis je regarde, on te laisse regarder. Puis après, tu rends service en amenant les sandwichs. Tu balayes un petit peu. Puis au moment, tu es engagé comme troisième assistant. Et après, deuxième assistant. Et voilà, et tu bricoles, tu gagnes pas bien ta vie, mais il y avait Jean Marais qui tournait Fantomas, tu vois, c'est pas d'aujourd'hui, hein. Et un jour, je fais des tests pour un film pour des acteurs, et je suis pris, voilà. Et donc, je me retrouve à Saint-Tropez, tournant un film avec Michel Morgan. Je loue une voiture américaine avec un chauffeur, j'invite mes copains, je claque tout mon cachet qui correspondait à ce que mon père gagnait en un an, en un mois.
La grande vie!
Oui, la grande vie, j'étais devenu un peu fou, quoi. J'avais 18 ans, faut imaginer, hein. J'avais pas le droit de signer le contrat, alors j'ai limite la signature de mon père pour faire le film. C'est drôle parce que j'ai retrouvé une lettre de mon père qui écrivait au producteur, qui était pas content et qui disait, faut pas qu'il s'appelle Artus Bertrand, faut qu'il s'appelle Artus. Il voulait pas que l'acteur, tu vois, abîme le nom Artus Bertrand. Et j'étais un très mauvais acteur, pas très sérieux. Je faisais beaucoup plus la fête. Je découvre le sexe, je découvre la vie luxueuse, quoi, de cinéma. Je continue à faire des cours de théâtre. J'ai failli faire le Grand Beaune, Albicoco, j'avais été sélectionné, mais je travaillais pas assez, je travaillais pas assez. Au fond, j'aimais pas beaucoup ce milieu. J'essaye de faire du cinéma pendant un an, je rame, et il m'arrive une histoire incroyable. Je tombe amoureux de la mère de mon meilleur ami, qui avait 23 ans de plus que moi, et je pars avec elle vivre dans l'Allier, où elle avait un château et une propriété un peu en ruine.
Et c'est là que tu vas t'occuper de la gestion d'un parc animalier, parce que, déjà à l'époque, tu es fasciné par les animaux.
Je suis fasciné grâce à cette femme qui s'appelait Hubert et on crée ensemble une réserve zoologique. En fin de compte, je suis assez entrepreneur. J'aime entreprendre, j'aime faire. Donc, je tombe dans cet endroit incroyable avec beaucoup, beaucoup de problèmes financiers et on crée ensemble une réserve zoologique. Il y avait une espèce d'envie d'animaux incroyable. Il faut dire aussi qu'à cette époque-là, on pouvait acheter tous les animaux qu'on voulait par correspondante. On envoyait des fax sur les papiers qui s'effaçaient, les premiers fax, et on pouvait avoir n'importe quel animal, des lions, des chimpanzés. Et aussi, on était très spécialisés dans les animaux apprivoisés. J'avais élevé beaucoup de lions, j'avais élevé des tigres. Et puis les gens nous amenaient les animaux qu'ils avaient ramenés. Un jour, on me donne un puma, un jour, on me donne une panthère. Donc, j'avais beaucoup d'animaux et j'adorais ça. J'étais absolument fasciné par les animaux. Et pendant 10 ans, je fais ça. Et quand, à un moment, on va se séparer, et quand je pars, on est devenu la première attraction touristique du centre. On avait près de 200 000 personnes qui venaient nous voir visiter avec deux petits restaurants, voilà. Et je pars, voilà, pour une nouvelle vie.
À cette époque, Yann, tu es très opportuniste.
Ta vie, c'est une œuvre d'art que tu façonnes, que tu crées. En fin de compte, c'est toi de faire de ta vie quelque chose. Et moi, je suis entrepreneur, j'aime fabriquer, j'aime faire, j'aime... Et c'est peut-être aussi le fait... de pas avoir fait d'études, le fait de dépendre uniquement de toi quand tu es indépendant, ben faut que tu te démerdes tout seul, donc tu es très opportuniste, quoi. Toutes les idées qui arrivent, tu te jettes dessus si tu sens que c'est là où tu vas être bien. Et quand je pars de ce parc, en abandonnant d'ailleurs un petit peu cette femme qui m'avait donné énormément, qui a eu confiance en moi, j'ai créé des choses, et je le regrette un petit peu, je suis parti un peu comme un voleur, pas comme un voleur, mais enfin bon, je suis pas forcément bien parti, je reconnais, je suis parti, et là je suis tombé amoureux de ma femme actuelle, Anne. Là, je décide de devenir scientifique. Je me dis, Yann, il faut, t'as raté un peu ta vie, faut voir les animaux sauvages. Et donc, je décide de préférer une thèse, un doctorat sur les lions. Ce qui est formidable à cette époque-là, je sais pas si ça peut le faire encore, c'est que si tu trouves un directeur de thèse qui accepte ton projet, tu peux faire des études scientifiques. Alors, tu n'auras pas le droit d'enseigner à l'université, mais tu auras le titre.
Sans avoir le bac, en plus.
Ah oui, mais rien du tout. Même pas le brevet, j'avais rien. Donc, tu peux le faire.
Et là, tu décides de partir en Afrique. Tu vas vivre au Kenya.
On part avec Anne dans le Masai Mara. Il faut savoir que j'ai une période un peu de transition. J'avais été guide pour touristes et j'emmenais les touristes avec Africa Tour, Jet Tour, tu vois, en Afrique. Et là, j'avais rencontré des Français qui avaient monté une société de montgolfières. Et je les vois en plein milieu du Masai Mara, qui est une réserve formidable. Et je leur dis, mais j'étais déjà pilote avion, je leur dis, mais est-ce que vous n'auriez pas besoin d'un pilote de montgolfière? Ils me disent, écoute, c'est génial parce que nous, tous les pilotes qui viennent, c'est des pilotes anglais. Ils sont là pendant un mois, ils s'emmerdent dans le bush. On rêverait, et moi c'était mon rêve d'habiter là-bas, au milieu des lions et des animaux, dans le Masai Mara, qui est la réserve la plus intéressante, où il y a plus d'animaux. Et ils disent, OK, on te paye ta formation. Il faut toujours saisir sa chance. La chance, elle passe toujours près de toi, et il faut la saisir. Il ne faut pas avoir peur de la prendre.
Donc tu pars en 1978, à ce moment-là, tu rêves de Daktari, tu es pilote d'avion, et on t'offre cette possibilité de devenir pilote de montgolfière. Est-ce que tu es aussi déjà un peu photographe ?
Je le suis très peu. Mon père faisait de la photo, mais je n'étais pas vraiment photographe. Mais je faisais de la photo depuis toujours, comme tout le monde, quoi, amateur. Ben, ce n'est pas comme aujourd'hui, où aujourd'hui on fait toutes les photos avec nos iPhones. Mais vraiment, je faisais de la photographie. Mais il faut savoir que j'avais été fasciné par Jane Goodall, qui est cette femme qui étudie les chimpanzés, qui avait fait un livre, Les chimpanzés et moi. Moi, j'avais des chimpanzés chez moi que j'aimais beaucoup, donc ça m'avait passionné. Et je me suis dit, on va faire la même chose sur les lions que ce qu'elle a fait. Voilà, donc on part étudier les lions, et je me sers d'être pilote de montgolfière pour gagner ma vie, parce que bien sûr, j'avais pas d'argent pour financer l'étude, personne m'aurait donné de l'argent, puis ce problème de tous les scientifiques pour payer les études, c'est impossible. Donc, je suis pilote de montgolfière, je construis une maison incroyable au bord de la rivière, une maison en bois que je fais moi-même avec mes copains africains, et c'est génial de construire sa maison. Ça, c'est un truc que je recommande à tout le monde, si quelqu'un peut le faire avec des marteaux, des clous, des planches, tu construis ta maison, et on fait une grande maison. Anne avait deux enfants, Baptiste et Guillaume, et je dois reconnaître qu'assez courageusement, elle a tout abandonné et partie avec ses enfants qui avaient 2 et 3 ans et demi, donc il faut quand même le faire. Hein.
Et là, tu vas vivre dans le bush, tu es au beau milieu du Kenya.
Oui, je vais vivre le kit d'aventurier incroyable, quoi. La Land Rover, les animaux, les éléphants qui passaient devant ma maison. Donc pendant 2 ans, on a suivi les lions tous les jours. Mais voilà, on a une vie incroyable. Et pour vraiment fournir cette thèse, eh bien, je fais de la photographie et c'est là où je deviens vraiment photographe.
Et alors, ce qui est important aussi, c'est que en volant avec ta montgolfière, tu prends conscience, dès cette époque, à la fin des années 70, de l'intérêt de photographier notre monde vu du ciel.
Moi, je travaille aux télés, donc j'amène une nouvelle façon de travailler, mais surtout, la photographie aérienne me permet d'expliquer mieux le territoire. Voilà. Et je fais beaucoup, beaucoup, beaucoup de photos. Je vais voir le journal Géo, qui démarrait à ce moment-là, et quand il voit les photos de lions, il dit « c'est génial ». Alors là, il me donne des tonnes de films, il dit « vas-y, fais-nous un sujet sur les lions ». Donc je me passionne par la photographie, ma femme continue à écrire. Voilà, on passe un moment inouï, et donc on passe 3 ans là-bas, on revient avec toutes ces photos de lions incroyables, on avait vraiment vécu l'intimité d'une famille de lions. Je faisais partie de leur famille, on avait mis des noms, on les connaissait par cœur, on connaissait les lionceaux, quand il y en avait un qui mourait, on pleurait presque, tu vois, c'était vraiment, on faisait partie de la famille de ces lions. Et voilà. Et quand j'arrive en France avec tout ce matériel incroyable, je vais voir Hervé de la Martinière, que je reconnaissais pas du tout, mon éditeur, qui est devenu un de mes meilleurs amis, mais c'est génial, c'est formidable. Il y a aussi, il faut savoir, dans les années 80, c'est l'époque de l'âge d'or de la photographie pour la France. Les grandes agences Sigma, Gamma, tu vois, Sipa, sont des grandes agences de photos. On vend des photos dans le monde entier et d'un seul coup, je me retrouve avec 15 pages dans Paris Match, moi qui étais absolument inconnu, je connaissais pas la photographie, je savais même pas qui était Cartier-Bresson, Douaneau, tu vois, je connaissais que les photographes animaliers, et je me retrouve photographe, et on décide de pas soutenir la thèse, puisqu'on fait un livre, je commençais à bien gagner ma vie, donc voilà. Donc je suis pas devenu scientifique, mais je suis devenu photographe.
Yann, que t'ont apporté ces rencontres avec les lions?
Les lions m'ont appris la beauté, la patience, tu vois. Peut-être cette beauté évidente. Moi, je suis très, très attiré par la beauté. souvent, dans les critiques que je vois de spécialistes d'art, ils trouvent que je suis un photographe un peu ringard, quoi, un photographe de voyage. Mais moi, je dois reconnaître que la beauté m'attire. Voilà. Qu'il n'y a rien de plus beau qu'une lionne qui chasse aplatie dans les airs, mais rien de plus beau qu'un ciel d'orage, tu vois, un arc-en-ciel. Cette beauté évidente, même encore aujourd'hui, me pénètre. Voilà.
Il y a une contradiction, parce qu'ensuite, tu rentres, et puis en 1981, tu deviens aussi un photographe de sport respecté, avec tes fameux téléobjectifs, notamment sur le Paris-Dakar, cette course automobile. On a l'impression là que tu fais le grand écart entre tes animaux perdus du côté du Kenya, dans l'Afrique de l'Est, et puis le Paris-Dakar dans l'Afrique de l'Ouest.
Il n'y a pas de grand écart. J'étais au Kenya, je fais des photos de voitures d'un rallye, le Safari Rallye, qui était un rallye très connu à cette époque-là, un peu comme le Monte Carlo, tu vois, qui a été arrêté depuis. Ça m'amusait de le faire. J'étais au Kenya, je photographie les voitures qui passent devant les animaux sauvages, parce que le rallye passait tout près de ma réserve. Et donc, je m'amuse à faire ces photos de voitures, et ça marche très bien. Et quand je rentre en France, Jackie X, qui était un pilote automobile qui est génial, me dit « Yann, tu devrais faire le Paris-Dakar en Afrique et tout ». Et je m'inscris pour faire le premier Paris-Dakar. Mais à cette époque-là, il faut imaginer ce qu'était le Paris-Dakar. Le Paris-Dakar, toute la France ne parlait que de ça. On ne parlait pas du tout d'écologie sur le Paris-Dakar. Je deviens assez copain avec Thierry Sabine.
Le créateur et l'organisateur.
Voilà, je deviens très proche de lui. Je fais beaucoup de reconnaissance avec lui. Mais on ne me le reprochait pas du tout de faire le Paris-Dakar. Toi, aujourd'hui, ça paraît comment Arthus Bertrand fait le Paris-Dakar. Mais il faut imaginer que dans les années 80, on ne parlait pas d'écologie comme aujourd'hui. Tout le monde s'en foutait de l'écologie, en gros. Hein. Pour à cette époque-là, l'écologie, c'était le jardinage.
Et est-ce que toi, tu t'en foutais à l'époque aussi?
Non, pas du tout, parce que je demande à Thierry Sabine de nettoyer les campements quand on part. On parlait pas de changement climatique à cette époque. Le changement climatique est arrivé bien après. Il y avait un prix à payer, c'est qu'on abîmait quelquefois les routes en Afrique, mais on amenait énormément d'argent là-bas. Et surtout, moi, j'ai découvert une Afrique que j'adore, que j'avais jamais vue avant. Je traverse le Ténéré une dizaine de fois. Je deviens très copain avec Mano Dayak, qui était un Touareg. J'ai fait les plus beaux voyages de ma vie dans le Ténéré, dans les reconnaissances. Il y avait une aventure entre les photographes. Un photographe, il recherche l'aventure, en fin de compte. Et suivre le Paris-Dakar en voiture, on est en voiture, on n'est pas en hélicoptère. On faisait la même course que les concurrents, on faisait des photos, on envoyait ça dans le monde entier. Voilà, c'était une espèce d'aventure incroyable. J'ai adoré faire le Paris-Dakar. Je l'ai fait une dizaine d'années. Après, Thierry est mort. C'était devenu un truc commercial tout à fait compliqué. Mais il n'y avait pas de GPS, on se perdait. C'est vrai qu'il y avait un côté puéril. Mais en même temps, je pense que ça fait une découverte de l'Afrique formidable pour beaucoup de gens. Et je répète, à cette époque-là, il y avait une espèce d'engouement sur le Paris-Dakar. Puis aussi, on était très proches des Africains, parce que souvent, on dormait dans les petits villages, on parlait avec les gens, voilà.
Yann, et puis il y a aussi ton destin, ta bonne étoile, notamment sur le Paris-Dakar, parce que le jour où Thierry Sabine se tue en hélicoptère, tu aurais dû être avec lui.
Oui, j'étais tous les jours avec Thierry. En fin de compte, on faisait un livre sur le Paris-Dakar qui paraissait 8 jours après. J'étais tous les jours avec lui. Et un jour, il me dit, bah, ça m'arrangerait si tu pouvais laisser ta place. Il appelait le chanteur, voilà, au chanteur Balawan. Et j'y vais bien sûr. Moi, j'étais content de retrouver mes copains photographes. Et ce jour-là, l'hélicoptère se crache. J'ai une chance inouïe. C'est l'époque où il n'y avait pas les communications d'aujourd'hui. Tout le monde, ma femme en premier, tout le monde pense que je suis mort avec Thierry.
Et c'est pas la seule fois que tu as un problème avec un hélicoptère, puisque à la Nouvelle-Orléans, aux États-Unis, là encore, bien ta bonne étoile te sauve, puisque tu te craches en hélicoptère, mais que tu en réchappes.
Oui, j'ai une chance inouïe. Je me crache en hélico, on aurait dû se tuer, on perd le contrôle et on se crache sur le toit, au milieu de l'eau. On ne tombe pas dans l'eau, en plus, ce qui est absolument inouï. J'arrive pas à enlever ma ceinture, on est un peu évanoui pendant quelques temps et on était tous en vie. On était comme ivres de joie d'être en vie, je me souviens, parce que j'étais persuadé de me tuer, moi. Et c'est drôle parce qu'on dit toujours que ta vie défile quand tu vas mourir, pas du tout. Là, au contraire, j'expliquais ce qu'il fallait faire pour sortir de cette vrille infernale dans laquelle on était. On était quand même à 300 mètres de haut, donc on est tombé en vrille. Et j'étais ivre de joie, j'étais couvert de sang parce que le pilote avait ouvert un peu le front et m'avait saigné sur moi, mais j'avais rien du tout. Là, les hélicoptères américains viennent nous chercher, ils disent tous, mais je comprends même pas comment vous êtes encore en vie vu comme vous tombiez. En fin de compte, on est tombé dans un arbre un peu avant qui nous a freinés. Ils m'ont emmené sur un porte-avions américain. Et c'est drôle parce que j'étais tout seul. Ils m'avaient tout découpé mes vêtements, croyant que j'étais blessé, j'avais rien. Et je voulais boire du vin, assez étonnamment. Parce que le vin, c'était la France, le terroir, mes amis. et je demandais du vin. Il paraît que je hurlais, je veux du vin. Alors, ils m'ont fait une piqûre pour m'endormir. Et ils m'ont dit le matin que je voulais du vin. Donc, j'étais comme ivre de joie. C'est assez étonnant, hein, d'être ivre, d'être en vie, voilà.
Ensuite, Yann, il y a ton fait de gloire. 1999, la Terre vue du ciel, 60 pays survolés, 4 millions d'exemplaires en 27 langues, le livre illustré le plus vendu de l'histoire. Tu as parcouru le monde et tu l'as photographié depuis les airs. C'est l'idée géniale de ta vie ?
Non, il faut rester humble et modeste avec ça. En 92, il y a la conférence de Rio. Et moi, je suis très impressionné par le travail d'un de mes amis qui s'appelle Salgado, qui est un photographe brésilien, qui fait un travail formidable en ce moment sur l'Amazonie. Et il avait fait un travail sur la main de l'homme dans le monde entier pendant 5 ans. Et je me dis, ce métier de photographe, eh bien, il faut le construire, quoi. Il faut essayer de faire des gros sujets. Et c'est ce qui m'intéressait. Il y a l'an 2000 qui va arriver. Je veux marquer l'an 2000, faire un livre sur le monde en aérien avec des légendes fortes. Et pendant 8 ans, je vais survoler la Terre. Et j'ai beaucoup de problèmes financiers, bien sûr, parce que faire l'hélicoptère, c'est cher, tu vois, c'est compliqué. Alors, je trouve un patronage de l'UNESCO, j'hypothèque ma maison pour le faire. Et je pars pendant 8 ans travailler sur ce projet qui me dépassait un petit peu, tu vois, photographier la Terre comme ça, tout seul. Mais j'étais habité par une espèce de certitude que c'est un travail important, de mémoire. Je ramène toutes ces photos incroyables. Je travaille beaucoup. Je dois reconnaître que je suis un gros travailleur et que moi, je prenais jamais de vacances, ou moi, je prenais des vacances dans des endroits où je pouvais travailler, voilà. Donc, c'était un travail de photographie, mais en même temps, un travail sur l'état de la planète. J'étais un peu obsédé par le bouquin de Lester Brown, qui faisait chaque année le World Watch Institute. Et donc, c'est vraiment un livre de photos, mais en même temps, très, très fort. Je montre ça à Hervé de la Martinière, avec qui j'avais publié pas mal de livres, déjà. Et il me dit, écoute, c'est un travail formidable, on va faire le format que tu veux et le prix que tu veux. Donc, tu vois, c'était génial. Et on en fait 35 000 exemplaires, le début, on travaille beaucoup sur la maquette. Et un jour, Hervé m'appelle, me dit, écoute Yann, je viens d'avoir une réunion avec les représentants, 35 000 exemplaires, on va jamais les vendre. C'est pas possible. Ça marchera jamais. Il faut savoir qu'un livre à cette époque-là, de photos, quand on en vendait 5 000 exemplaires, c'était un succès. J'avais fait Paris vue du ciel qui était un succès, on avait vendu 8 000, tu vois. Donc 35 000, c'est un gros risque. Et il me dit, écoute, est-ce que tu es d'accord pour qu'on baisse le prix, qu'on le met on parlait en francs, à 300 francs? Mais je dis, bien sûr, au contraire, moi, je voulais faire un prix pas cher. Et le livre a été complètement happé par le désir des libraires de faire un livre pour l'an 2000. Et d'un seul coup, le livre a été un succès inouï, tout de suite en France. Il faut savoir que ce travail sur la Terre vue du ciel, ça a changé ma vie. D'abord, moi, personnellement, j'étais devenu un activiste, un écolo. J'avais compris qu'il se passait plein de choses.
C'est à ce moment-là que ta fibre écolo naît véritablement ?
Mais j'étais déjà un écolo depuis que j'ai 20 ans, quoi. Depuis que je m'occupais d'animaux, j'étais quand même quelqu'un très impliqué dans l'écologie, mais j'avais pas pris conscience, certainement, de l'impact de l'homme sur la Terre et du danger que ça représentait.
Comment ta vision du monde évolue ?
Surtout, ce qui m'a intéressé sur ce travail de la Terre vue du ciel, c'est que j'ai compris qu'on pouvait pas parler d'écologie si on pouvait parler pas de pauvreté.
Yann, à quel moment l'écologiste prend le dessus sur le photographe ?
Je rencontre énormément de scientifiques qui sont tous inquiets. Donc, tu deviens inquiet, toi aussi, tout simplement. Et tu comprends bien qu'il se passe quelque chose. Et donc, quand le livre sort, je suis plus du tout le même, quoi. J'ai un travail beaucoup plus basé sur la prise de conscience de ce qui est en train d'arriver. Ce qui était assez nouveau, en fin de compte, parce qu'on parlait pas beaucoup des... Aujourd'hui, l'écologie est devenue quelque chose de très important. À cette époque-là, ça ne l'était pas du tout. Mais j'étais déjà très écolo, tu vois. Quand j'avais 20 ans, je votais pour Dumont, tu vois, qui était le premier écolo français.
Le premier candidat écolo.
Voilà, exactement. Donc, j'ai toujours été écolo, mais... Plus cette vision qu'on a du monde aujourd'hui, que l'espèce en danger, c'est pas les éléphants, même s'ils le sont, c'est l'homme d'abord. Ça, c'est très nouveau, ça arrive dans ces dernières années.
Yann, pourquoi ça devient un succès mondial, la Terre vue du ciel ?
Ben, ça devient un succès parce que tous les musées de France refusent ces photos, c'est l'an 2000, et donc il faut qu'on invente un système pour montrer nos images, et donc on invente les expos dans la rue. Et on invente l'expo rue de Médicis à Paris, qui est un énorme succès. On met les photos dehors avec les légendes gratuitement. Il y a 2 millions de personnes qui viennent la voir à Paris. Et tout le monde, dans le monde entier, demande l'exposition. Donc c'est assez extraordinaire. J'ai eu la chance que cette expo ait été refusée par les directeurs de musées ou des gens qui connaissaient l'art, si tu veux. Et donc, on est exposé partout. Tous les jours, je reçois des demandes de maires de Mexico, de Chicago, tu vois, qui veulent faire l'exposition. Et donc, ça donne une publicité incroyable au livre. Et le livre se vend à 4 millions d'exemplaires. C'est vrai, mais c'est un peu comme gagner au loto, quoi. D'un seul coup, ça t'arrive, toi qui vendais des livres à 5000 exemplaires. Et c'est formidable de rencontrer ton public, de rencontrer les gens pour qui tu travailles. Avant, je ne faisais pas du tout, toi. Et c'est là où je deviens un personnage public, si tu veux.
Yann, avant de parler de cinéma, avant de parler de la création de ta fondation Good Planet, d'abord la couverture de La Terre vue du ciel. Parce que c'est la France, Cocorico, la Nouvelle-Calédonie, un endroit que je connais bien, le cœur de veau, hein, ce cœur dans la mangrove qui est le symbole de toute cette époque.
C'est drôle parce que cette photo, quand je l'ai faite, c'est le pilote qui me dit « Tiens, je vais te montrer un truc, tu verras si ça t'intéresse ou pas. » Et puis je fais la photo, ouais, c'était un cœur, c'est pas mal. Mais tu vois, la photo, en fin de compte, je la mets dans le livre, mais je la mets même pas en grand, tu vois, dans le livre sur la Nouvelle-Calédonie. Et quand il a fallu qu'on trouve une couverture pour le livre, on savait pas quoi mettre. Et donc, on cherche, on cherche, on cherche. Et avec Benoît Natchi, qui était le maquettiste du livre, il dit « Pourquoi on met pas ça ? C'est le cœur, c'est un symbole. » Et je mets la couverture, mais surtout, j'impose cette couverture à tous les éditeurs étrangers et même aux éditeurs français qui ne la voulaient pas au début. Donc, ce qu'il veut, la photo devient un symbole parce que je l'impose. Quand tu fais un livre, très souvent, les éditeurs étrangers font leur couverture à eux en te disant « Ouais, mais pour mon marché, ça ne va pas marcher. » Ils aiment bien choisir. Et moi, je l'impose. J'y sais ça ou rien. Et donc, cette photo devient un symbole. Voilà. Et c'est le Dalai Lama qui, un jour, passe au Sénat et qui dit « C'est un message d'amour que nous envoie la Terre. »
Tout naturellement, après la photo qui t'a rendu célèbre, tu te tournes vers la télévision et le cinéma.
Alors, le cinéma, il vient par Jean-Louis Remieux, qui a une boîte de production et qui me demande, la SEP, si tu voudrais présenter une émission de télévision pour France 2, qui voulait un peu concurrencer, en fin de compte, l'émission de Nicolas Hulot. Toi qui es sur TF1, tu connais le succès incroyable de Hulot à cette époque-là. Hulot faisait quelquefois 50% de l'audience, quoi. C'était inimaginable. Et donc, il me demande de faire une émission comme présentateur. Et je me souviens, au début, j'arrivais pas à parler. Alors, ils mettent un prompteur. Toi, j'avais un prompteur dans l'hélicoptère, quoi. C'était un peu ridicule. Et puis, à un moment, je commence à écrire mes textes. Et puis, bon, je commence à être à l'aise devant la caméra. Et j'aimais bien parler devant la caméra. Mais ce que j'ai aimé, surtout dans l'émission La Terre vue du ciel, c'est que j'allais à la rencontre des gens sur le terrain qui faisaient des choses. Donc, mon côté écolo, tu vois, mettre en avant les ONG, tout ça. Et c'est là, en faisant ces émissions, que j'ai eu l'idée de créer ma fondation. Parce que je me suis dit, voilà, tous ces gens que je rencontre, associatifs, comment je peux les aider ?
Alors justement, comment crées-tu cette fondation en 2005 ?
C'était une envie... Vous savez, l'intérêt de créer une fondation ou une association, c'est que ça donne les moyens, à travers des mécènes qui peuvent déduire ça de leurs impôts, d'avoir des moyens pour faire des choses intéressantes. Voilà. Et en fin de compte, l'association, je l'ai beaucoup créée au départ pour le projet 6 milliards d'autres. Un jour, on est tombé en panne d'hélicoptère au Mali, dans un tout petit village. Et je suis resté 3 jours tout seul dans un petit village avec des fermiers, ce qu'on appelle un peu des agriculteurs de subsistance, les gens qui ne vendent rien, qui travaillent au quotidien la terre pour se nourrir, un peu comme un sacrifice quotidien. Et on parle ensemble, et ils m'expliquent leur vie, ils m'expliquent la peur de la maladie. Quand t'es malade, tu peux pas travailler, tu peux pas nourrir ta famille. La peur d'une mauvaise météo. Ces peurs vraiment essentielles. C'est des gens qui sont dans la survie en permanence. Et en fin de compte, tout ça, je le savais très bien. Mais je passe 3 jours, je dessine ma maison, ils tuent une chèvre pour moi. C'est un peu comme ma famille, quoi, mes frères. Et je m'aperçois que ces gens, ce qu'ils me donnent, c'est formidable. Tout ce que j'avais lu, ce que je savais déjà, le fait qu'ils me le disent droit dans les yeux me transperce le cœur, quoi. Donc, je décide, après ce travail de La Terre vue du ciel, j'y pense beaucoup, de faire un travail vidéo ou photo sur les gens qui habitent sous mes photos aériennes et qu'est-ce qu'ils ont à me dire. Parce que je ne pense pas que mes photos suffisaient. Et donc, il fallait absolument que je fasse parler les gens qui vivent sous mes photos, qui complétaient formidablement mon travail.
Donc, tu crées cette fondation Good Planet en 2005, et puis là, ensuite, tu te lances dans ce projet pharaonique, ce film Home en 2009, 10 ans pour agir. Qu'est-ce que tu as voulu dire à ce moment-là? Est-ce que c'était un message d'espoir ou un message plus de catastrophe annoncée?
Moi, j'ai toujours su quelqu'un qui est assez pragmatique et qui veut montrer les choses telles qu'elles sont. Je ne cherche pas à montrer d'espoir où il n'y en a pas, ou je ne cherche pas à montrer des catastrophes. Home, c'était un peu le résumé de ce que j'avais fait sur la Terre vue du ciel en vidéo. Et en fin de compte, je me sens très à l'aise de travailler en vidéo comme je fais de la photo. En fin de compte, je fais des films de photographes. C'est-à-dire, c'est très cadré, la lumière, c'est très important. Il n'y a pas de scénario. Souvent, on part un peu à l'aventure et les choses se font à l'arrache. Et un jour, je rencontre Luc Besson qui me dit « Si tu as envie de faire un film, ben, viens me voir ». Je vais voir Luc Besson, qui est assez formidable, et on lui parle du projet. Il dit « Ok, on discute d'un budget ». Il me dit « Oui, mais en un quart d'heure, quoi. C'est un miracle absolu ». Et je lui dis « Ça serait bien de trouver un mécène pour voir ». Alors, il cherche un mécène, il demande à son ami Pinault d'aider le film. Et donc, je suis parti faire ce film sur le monde, grâce à Luc Besson. Très, très vite, ça s'est décidé. Et on travaille sur ce film pendant 2 ans. Et j'essayais de faire un film qui soit authentique, qui soit vrai. Et c'est un film qui raconte la vérité. Et c'est vrai qu'à cette époque-là, je suis beaucoup plus dans l'espoir. Je pense qu'on peut changer le monde. Je pense qu'on peut arrêter de consommer des énergies fossiles. Je pense qu'on va trouver des solutions. Aujourd'hui, je suis dans un trip qui est beaucoup, beaucoup moins optimiste que je suis à cette époque-là. Voilà, donc je fais ce film et le film est un succès formidable sur l'incroyable aventure de la vie, quoi, l'incroyable aventure de la beauté du monde. Et je pars toujours de ça, moi, je pars toujours de la beauté, de l'histoire de la vie, c'est inouï, quoi, c'est inouï. C'est milliards d'années d'évolution pour qu'on soit là, quoi. C'est l'histoire que j'aime bien raconter parce que l'histoire est magique, voilà. Et après, bien sûr, on parle des choses moins rigolotes, mais voilà, il faut d'abord, je pense, pour emmener les gens, les amener sur un émerveillement. Et d'abord, c'est cet émerveillement qui m'intéresse, voilà.
Après avoir photographié Yann et filmé le monde, la Terre, dans Home, tu t'intéresses aux gens qui l'habitent, dans Human. Mélange de plans magnifiques et de rencontres souvent inattendues. 2000 personnes interviewées, 65 pays visités, et des thèmes très différents tels que l'homosexualité, l'immigration ou encore l'amour.
On a une vraie habitude d'interroger les gens. C'est des interviews un peu comme si on allait chez un psy, hein. C'est des interviews qui durent. Nous, on est un peu les spécialistes d'écouter les gens. Je pense que dans ce monde difficile, compliqué, qui est un monde avec beaucoup, beaucoup de conflits, moi, j'ai envie de parler de bienveillance, de gentillesse, d'ouverture. Je pense que plus ça va, plus j'aime la vie, plus j'aime les gens, quoi. C'est assez curieux. J'essaye d'avoir moins de cynisme, de scepticisme sur le monde, même d'un monde difficile et compliqué. Et donc, Human, ça répond un petit peu à ça. Et en même temps, tout ce travail qu'on fait, on le fait d'abord pour soi, quoi. On a envie de comprendre le monde, avancer dans sa vie. Moi, je dis souvent, je vieillis pas, je grandis, quoi. Et donc, ce travail, il te fait grandir d'écouter tous ces gens. Et tu sors pas de ces films indemnes. Quand tu fais des 2000 interviews, tu entends tous ces gens qui te parlent le sens de la vie.
Tu as ensuite aussi réalisé Woman, où tu donnes la parole à des femmes sur des thèmes très difficiles, l'excision, le mariage forcé, les violences sexuelles. Et là, en ce moment, tu travailles sur un nouveau projet, ton dernier film en préparation, Legacy.
C'est la suite de Home, en fin de compte. C'est la suite de Home. C'est un peu un état des lieux d'aujourd'hui. Alors, c'est très différent de Home parce qu'on essaye de faire un film à l'économie. On a fait travailler des dronistes dans le monde entier sans se déplacer. C'est un film compliqué à faire, difficile, parce que j'ai pas du tout envie de faire un film catastrophique. Mais c'est un film, en fin de compte, que je veux regarder le monde avec les yeux ouverts. Voilà. Aujourd'hui, il faut arrêter de se mentir. Par exemple, toutes ces COP hein, extraordinaires qu'on fait. Il ne faut pas croire que c'est le prochain COP qui va sauver le monde. C'est, voilà, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Et les Nations Unies, c'est une grosse réunion de copropriétaires où tout le monde râle, chacun tire la couverture à soi. Et ça, je veux le dire, voilà. Il y a beaucoup d'hypocrisie. Et je pense que les hommes politiques qui signent ces accords, j'y crois de bonne foi en plus, mais ils signent des accords, tu vois, pour 2050. Et je veux aussi dire que, normalement, chaque Français devra, en 2050, émettre de tonnes de carbone maximum. Aujourd'hui, on en émet 12 tonnes par Français.
C'est-à-dire qu'il faut diviser par 6.
Voilà, et on n'en prend pas le chemin, je peux te dire. Alors bien sûr, le Covid va nous aider. C'est-à-dire qu'on va arriver à faire ce monde idéal. Mais
je te coupe, parce que justement, c'est intéressant ce que tu viens de dire, parce qu'il y a ton message, et puis il y a les actes aussi. Et là, c'est aux militants que je parle, Yann Arthus-Bertrand. Tu as décidé de ne plus jamais prendre l'avion. Est-ce que c'est tenable? Est-ce que tu vas réussir
D'abord, j'aurais dû le faire bien avant. J'aurais dû le faire avant. Je dois reconnaître, je suis pas très fier de dire. Moi, j'avais des copains écolos qui le prenaient pas bien plus longtemps que moi. Donc voilà, c'est pas très courageux, mais c'est la petite Greta qui m'a fait réfléchir. Je lisais son bouquin.
Greta Thunberg.
Voilà. Je lisais son bouquin sur ses discours et à la 16 ans, quoi. Elle a décidé d'arrêter l'avion, d'arrêter la viande. Et toi, une espèce de côté radical. Et ce que je veux dire dans ce film Legacy, c'est on vit un peu dans la banalité du mal. C'est pas honteux de manger de la viande, c'est pas honteux de prendre l'avion, c'est pas honteux d'avoir une voiture diesel, bien sûr, mais on l'accepte et c'est pas bon pour l'environnement.
Mais est-ce que tu vas tenir, toi, Yann? Est-ce que tu vas réussir à ne plus voyager en avion?
Ah ben bien sûr, moi j'ai 74 ans, de toute façon, donc je peux me permettre de le faire. Moi, j'ai été dans les plus beaux endroits du monde, donc c'est pas à moi de culpabiliser les autres.
Qu'est-ce que tu vas dire aux gens qui, forcément, en ce moment, ont peut-être envie de te rétorquer que tu as tellement voyagé, tu as tellement fait le tour du monde, que c'est facile de le dire dans ta situation et à ton âge?
Ben, ils ont raison de le dire, mais ça ne m'empêche pas d'arrêter quand même. Voilà. Ils ont raison. D'ailleurs, quand je l'ai annoncé, je me suis bien fait attaquer là-dessus, mais ils ont raison. J'accepte ces critiques, elles sont tout à fait fondées. Voilà. J'ai rien d'autre à dire que ça.
Tu veux aller aujourd'hui contre la tyrannie de la croissance? Tu dis que c'est la croissance, la recherche absolue du profit qui tue notre monde?
Tu sais, en fin de compte, j'ai une fondation, je fais des films, je travaille avec des mécènes qui me font vivre et qui vivent de la croissance. Donc, je suis moi-même en contradiction avec ce que je suis en train de dire, mais j'essaye de faire au mieux, de travailler avec des mécènes qui sont le mieux possible. En tout cas, je pense qu'aujourd'hui, il y a une espèce de... Cette croissance, on sait bien que ça nous emmène nulle part. Et je crois que les gens de toutes les grosses boîtes, que ce soit... J'ai vu un appel... qui est dans le monde, là, de tous les gens du CAC 40 qui parlent d'un monde nouveau, plus écolo. Tout le monde se rend compte de ça. Je pense que le PDG de Total est très au courant de ce qui est en train de se passer, de la croissance. Le PDG de Total qui vend du pétrole sait très bien que ce qu'il vend n'est pas bon pour l'environnement. Donc voilà, donc tout le monde est en train de changer et il faut lutter contre cette croissance.
Oui, mais Yann, comment faire sans le pétrole aujourd'hui?
Bon, on ne sait pas faire.
Ben voilà, c'est ça aussi le problème. Tant qu'on ne saura pas faire, on sera obligé d'avoir du pétrole et d'utiliser du pétrole.
D'abord, on peut essayer de limiter. On peut essayer de limiter, c'est-à-dire, tu sais que 80% des sauces tomates aujourd'hui arrivent de Chine. Est-ce que c'est normal? Non. Par exemple, tout le cochon que tu consommes aujourd'hui est nourri avec du soja qui arrive du Brésil. Ben, c'est pas normal. Voilà, c'est quelque chose qui est déraisonnable, tout simplement. Mais tout le monde le comprend très bien, ça. Hein, c'est même pas la peine d'expliquer.
Non, mais le comprendre, c'est une chose. Être capable de s'adapter pour faire évoluer, c'en est une autre.
Je sais bien, j'espère qu'on va y arriver. Tu vois bien que moi, pour l'avion ou pour la viande, il m'a fallu des années avant que je fasse ce choix, donc, alors que je suis un écolo, donc quelque part, je comprends très bien que pour les gens, c'est pas très facile, mais quoi faire d'autre que de le dire et de continuer à rabâcher le truc? Rien d'autre, quoi, d'essayer d'avancer. Je pense que l'écologie, c'est ça aussi, hein. Dans un monde écolo, mais beaucoup plus humaniste, voilà.
Te considères-tu comme un aventurier, un explorateur?
Non, d'abord, je refuse ce mot d'aventurier. Je ne suis pas un aventurier. J'ai beaucoup voyagé, j'ai fait beaucoup de choses, mais je prends l'avion, je prends l'hélicoptère, je ne traverse pas la jungle avec une machette, tu vois. Non, je ne me considère pas comme un aventurier. Mais la vie, pour tout le monde, est une aventure. Et cette vie, c'est important de savoir la créer soi-même. On ne t'impose rien. Alors bien sûr, si tu n'es avec des... Et je le dis avec tendresse, parce que j'ai beaucoup travaillé là-dessus. Si tu as un enfant handicapé, ben, ta liberté, elle est quand même assez réduite. Voilà, il y a des choses dans la vie qui font que tu dois, tombes sur la tête et dois vivre avec. Mais si tu es quelqu'un qui a une vie normale, tu peux choisir ta vie pour faire attention. Et c'est ça, tu sais, je parlais souvent de la banalité du mal qui nous entoure. Il faut être dans la banalité du bien, en permanence. Et le monde se réduit, en fin de compte, au bien et au mal. Et l'aventure, c'est choisir le bien, justement. Et mes héros, pour moi, tu vois, c'est le bénévole qui va donner, qui va servir au Resto du Cœur. Voilà, les gens qui travaillent chez Emmaüs. Pour moi, c'est ça, les héros. Les infirmières qui se sont données, comme on sait bien ce qui s'est passé pendant le Covid. Mais l'aventure, elle est là. Qu'est-ce que tu fais de ta vie? De te dépasser, c'est ça, l'aventure. D'aller plus loin que ce que la vie te propose. Voilà.
Yann, on sent le militant, l'homme engagé. Mais n'y a-t-il pas aussi chez toi un besoin de reconnaissance? Un besoin de revanche par rapport à l'enfant médiocre à l'école que tu étais à la fin des années 40?
Oh, tu sais, il faut combattre son ego un maximum. Bien sûr que j'ai été comme tout le monde quand je faisais des émissions de télé, j'adorais qu'on me reconnaisse dans la rue, comme photographe. Mais aujourd'hui, réussir sa vie professionnelle, c'est pas très difficile en fin de compte. Mais réussir sa vie d'homme, c'est beaucoup plus compliqué. Et bien sûr que tu as envie d'être reconnu, de reconnaissance. Aujourd'hui, j'ai l'impression d'avoir dépassé un petit peu ça. À 74 ans, on va finir l'interview en te disant quelque chose qui m'a fait beaucoup réfléchir. Quand j'étais en Madagascar et qu'on faisait des interviews justement avec des gens qui sont ces agriculteurs de subsistance, ces gens qui ne vendent rien, qui ne savent pas lire, pas écrire, tu vois, qui ont bien plus d'expérience que toi. Et à la fin de l'interview, je me souviens d'avoir demandé à une dame quel était son plus grand rêve. Alors elle réfléchit, elle avait bien compris que c'était pas, je voulais pas demander, est-ce que mes enfants n'aient pas faim, j'ai quelque chose de plus important, tu vois. Elle me regarde, elle réfléchit, et en souriant, elle me dit, j'aimerais mourir avec le sourire. Et tu vois, c'est quelque chose à laquelle je pense tous les jours. On va tous mourir, cette aventure incroyable de notre vie va s'arrêter un jour, et dans ta vie, d'avoir fait les choses qui te permettent d'accepter ce que tu as fait, de partir sans regret, eh bien voilà, c'est ça, mourir avec le sourire. Et c'est ce que j'aimerais faire. Alors bien sûr, c'est un graal impossible, je pense que c'est impossible, mais c'est quelque chose à laquelle je pense tous les jours. Voilà, mourir avec le fait d'avoir fait de ma vie ce que j'avais envie d'en faire avec, et d'accepter ce que j'ai raté, quoi, parce qu'on a raté tellement de choses. Et le mal aussi qu'on a fait, on n'a pas toujours été quelqu'un de bien. Voilà, et de le savoir et d'essayer de réparer.
Que voudrais-tu laisser comme trace sur Terre, ton épitaphe?
J'aimerais bien que mes petits-enfants disent que j'étais un bon grand-père. Ça me suffit.
Voilà. C'est pas mal.
Un grand-père attentif.
Le nom Artus Bertrand aujourd'hui, est-ce que c'est plus toi et ce que tu as fait ou tes ancêtres rendus célèbres par la fabrication de médailles?
Oh, tu sais, aujourd'hui, je suis peut-être plus connu parce qu'avec les médias, je fais un métier public, tu vois, c'est tout simplement. Mais tu sais... Je combats beaucoup mon ego, voilà, en sachant que aujourd'hui, voilà, revenir, se mettre à sa place, tout simplement.
Est-ce que tu as l'impression d'avoir participé à l'amélioration de la vie sur Terre à travers tes différentes actions?
Non. Tu sais, je pense qu'on travaille tous dans sa zone d'influence. Et je le répète, il y a tellement de gens qui sont des inconnus et qui font beaucoup pour les autres. Tu sais, la France est le pays des bénévoles. Je crois qu'il y a 10 millions, imagine, 10 millions de gens inscrits dans des associations en France. On est le pays, je crois, des records du monde pour ça. Et voilà, c'est tous ces gens-là dont j'aimerais faire partie, et ça me suffit. Voilà, tout simplement.
Comment tu vas voyager maintenant que tu ne prends plus l'avion? Comment tu vas t'évader?
Là, j'entends le gars de Koh-Lanta.
Mais
qui
oui,
me parle.
Pas uniquement le voyageur, parce que moi, je suis un voyageur. Comment tu vas faire pour voyager? Tu vas voyager dans ta tête maintenant que tu ne prends plus l'avion?
D'abord, je vais voyager en France, déjà pas si mal que ça, c'est un pays que je connais pas très bien, et je prépare un film qu'on a commencé qui s'appelle « France, une histoire d'amour », et on va aller filmer la France pour expliquer un peu ce que la France a donné à ces gens-là, parce qu'on est dans un pays formidable.
En train ?
Bien sûr, j'irai en train, mais j'adore prendre le train, d'ailleurs je vais, si le Covid avait pas été là, m'avait pas arrêté, on devait partir au Danemark en train, en Pologne en train, je vais faire le train, oui, mais je pense que le train va redevenir à la mode, qu'un jour il y aura des bateaux cargo qui t'emmèneront à New York, peut-être des bateaux électriques, je pense que c'est l'avenir et qu'il y en aura de plus en plus, et le train c'est vachement sympa, voilà, j'ai pris beaucoup l'avion, c'est bon, j'ai assez donné, voilà, mais il faut savoir que ça va pas me manquer. D'abord, j'ai tellement voyagé, tellement vu de choses. Et ce qui m'intéresse, enfin, j'ai 74 ans, je ne vais pas vivre encore, tu vois, 40 ans. Et je pense que faire un travail sur la France, ben, c'est pas mal, c'est déjà bien. Mais en même temps, je fais un film sur Legacy et je voyage à travers les films que m'envoient les dronistes du monde entier. Ça me suffit. Pourquoi j'ai la peine d'y aller si les gens font les mêmes images que moi? Ça suffit.
Yann, je ne peux pas partager exactement ce que tu dis parce que moi, j'ai encore envie de voyager et pour voyager, il faut prendre l'avion. Néanmoins, j'admire ton côté militant et puis j'admire, malgré tes 74 ans, ce côté enfantin utopiste qui te guide.
Mais tu sais, Denis, voyager pour faire ton Koh-Lanta où tu vas passer 2 mois dans un endroit, c'est pas comme faire un aller-retour à Marrakech pour 24 heures. C'est ça que je veux dire. Aujourd'hui, l'avion, c'est formidable, ça t'emmène dans des endroits géniaux. Il faut continuer à prendre l'avion, mais d'une façon raisonnable. Et en sachant que ce n'est pas bien...
Yann Artus Bertrand, merci beaucoup. Moi, j'ai pris du plaisir parce que t'entendre, c'est évidemment comprendre cette utopie qui t'anime, mais qui, quelque part, à travers tes photos, tes films et tes engagements, fait avancer le monde. Merci beaucoup.
Ben, tu es gentil. Je vous embrasse. Et je voulais dire simplement une chose, c'est que d'être écolo, c'est d'aimer, bien sûr, les animaux, la nature, la forêt, l'air propre, mais c'est surtout d'aimer les gens, quoi. Et c'est vraiment important. Donc à tous, je vous dis, du fond du cœur que je vous aime. Voilà, à bientôt.
Vous venez d'écouter un podcast du groupe TF1.